Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le numéro 542 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour un programme qui, comme d'habitude, depuis 11 ans déjà, prêche la consommation responsable et modérée. Nous parlerons d'Afrique du Sud aujourd'hui, également de Blaye, Côte de Bordeaux, les bons vins pour accompagner les poissons, le chocolat aussi, le concept Wine Explorers. Bref, n'en jetez plus, un grand moment en compagnie de Sabrina Schmitt, Antoine Cohen-Potin, David Cobold et Philippe Forbrack. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Antoine, dans l'agenda du vin, nous partons du côté de Marseille, une ville chère au cœur, notamment de Philippe Forbrack.
Voilà, alors le prochain dîner du Wine and Business Club Marseille se déroulera au Sofitel Marseille Vieux-Port le jeudi 23 avril. Au menu, l'économie, la gastronomie et les grands crus. Pour connaître d'ailleurs les prochaines soirées du Wine Business Club en France et à l'international, rendez-vous sur www.winebusinessclub.com.
Qu'est-ce qui se passe dans quelques jours, le 25 avril?
Alors, le 25 avril prochain, l'événement 20 vignerons en action aura lieu à Guichen. Le caviste Michel Pascot donne rendez-vous aux amateurs de vin au hall de Guichen, à 10 minutes de Rennes. Entrée libre, repas le samedi soir, 15€ sur réservation. Et pour plus d'informations, bien évidemment, rendez-vous sur le site internet www.toussalacave.fr.
On quitte la jolie Bretagne pour le Nord Pas-de-Calais.
Alors, si vous êtes assez clin dans le Nord Pas-de-Calais, entre le 24 et le 27 avril, aura lieu la 37e édition du salon Les vins de terroir et produits régionaux. Plus de 300 exposants seront présents, entrée gratuite. Alors, au programme, salon, foire, marché du vin, et pour plus d'informations, www.vindeterroir.com.
Et enfin, pour terminer, direction le Beaujolais pour fêter les crus du Beaujolais.
Les 25 et 26 avril prochains aura lieu la fête des crus de Beaujolais à Saint-Amour, en Bourgogne. Le prix est de 5€ pour les plus de 18 ans. Au programme, fête du vin, festival, fête des vendanges. Et pour plus d'informations, www.fetedescrus-beaujolais.fr.
Nous y serons. Merci Antoine Cohen-Potin. Sabrina Schmitt, c'est le moment du Vino Quiz. Allons-y Sabrina.
Donc je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur les vins et le vainqueur gagne un exemplaire de Tout sur le vin de Philippe Forbrack.
Quel bouquin exceptionnel.
Extraordinaire.
Alors, c'est la semaine dernière.
Alors, la semaine dernière, la question était: quelle est l'appellation de Château Fonréau? Réponse A, Listrac Médoc. Réponse B, Clos Vougeot. Réponse C, Côte du Roussillon.
Ah, le Roussillon, la bonne réponse, c'était quoi?
La réponse A, Listrac Médoc.
Bon, dire qu'il y a des gens qui se sont trompés. Alors, cette semaine,
de combien d'hectares est composé l'AOC Blaye-Côte de Bordeaux?
Réponse A,
650.
B,
6500.
Et C,
65 000.
Alors, pour répondre, comment on fait?
Pour répondre et gagner un exemplaire du livre Tout sur le vin de Philippe, vous pouvez envoyer dès maintenant votre réponse à l'adresse mail invino@vinojeux.com, invino, I-N-V-I-N-O, @vinojeux@vinojeux.com.
Merci Sabrina Schmitt, Philippe Forbrack. Un commentaire, vous qui êtes notamment au meilleur sommelier du monde sur l'année 1973. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites la grimace ou vous souriez?
Non, je souris d'abord parce que c'est l'année de ma belle, donc on la salue.
Qui nous écoute régulièrement
tous les week-ends. Mais c'est surtout une année de grande abondance qui a donné des vins qui avaient eu un intérêt pendant les années qui ont suivi, mais qui aujourd'hui sont un peu lointains dans les esprits des uns des autres. Si ce n'est peut-être sur les blancs, où ton Bourgogne, dans les grands crus de Bourgogne, les Montrachet, les Meursault, etc., on peut trouver encore des choses pas mal. Dans le Grave Blanc également, côté bordelais, j'ai goûté récemment le domaine de Chevalier Blanc 73 qui était encore remarquable. Mais ça devient quand même plutôt rare de goûter des vins accessibles encore aujourd'hui. Champagne, très beau millésime.
Ah oui.
J'ai goûté récemment l'Anson 73, le Nob 73, des vins qui...
Et ça tient bien.
Un millésime qui avait effectivement fière allure en Champagne. Mais globalement, la grande abondance de la récolte a fait que les vins étaient parfois un peu dilués, manquant de couleur en rouge. Par contre, pour les blancs, je viens de l'expliquer, il y avait un certain intérêt.
Quelques people ou VIP, Philippe Forbrack, qui sont nés en 1973.
Oui, quelques jolies femmes. Eva Herzigova, par exemple, la mannequin. Vanessa Domi, qui a été mannequin à son époque et qui, depuis qu'elle a épousé Philippe Lelouch, fait plutôt du théâtre, du cinéma. La chanteuse Elsa ou encore la tennis woman Monica Seles.
Est-ce que vous avez Francisque Bailly-Cochet dans vos stars nés en 1973?
Je fais Monica Seles.
Monica Seles. David Cobol, il faut se calmer. Voilà notre premier invité.
Ça, hein. Exactement.
C'est Francisque Bailly-Cochet, le président des Carousels Éponines. Bonjour Francisque.
Bonjour.
Alors vous avez arrêté l'école à 16 ans et vous êtes la cinquième génération d'une dynastie qui remonte à 1865. Racontez-nous.
Voilà, tout est parti depuis 1865 parce que nous sommes forains saltimbanques depuis plus de 5 générations.
Vous êtes forains saltimbanques.
Voilà. on va dire ça comme ça. Et donc en 1865, qu'on a pu faire des recherches. Donc la tante de mon arrière-grand-père, donc vous voyez que ça remonte même plus que 5 générations, avait fait construire un carrousel en Allemagne, parce que les premiers manèges qui ont vu le jour, c'était en Allemagne. Donc déjà à cette époque, ils ont été entreprenants et ils ont découvert le premier carrousel qu'ils ont fait construire en Allemagne pour faire venir en France. Et depuis là, voilà.
Donc votre métier, c'est de construire, de créer des carrousels.
Alors voilà, moi quand j'ai repris l'entreprise, j'ai voulu sortir un petit peu de l'ordinaire. Donc j'ai voulu créer, on va dire, des carrousels différents des autres. Donc, et puis on les a thématisés. Donc comme on est originaire de la région Franche-Comté, il y a un carrousel qui s'appelle Victor Hugo, un autre les Frères Lumière, un autre les Rouges de Lille. Puis après, on a voulu rentrer un peu plus, dans l'idéal, avec le carrousel Sissi.
David Cobold.
Si j'ai une suggestion, si vous parlez de cette région-là, ou un peu au sud, vous pourrez faire le carrousel Pasteur, Louis Pasteur, aussi, qui a découvert la fermentation du vin et du Jura.
Voilà, et vous fabriquez tout, Francisque, dans le Jura, 100%.
Voilà, donc on a trouvé un serrurier qui nous fait l'armature, on a un bois extraordinaire, parce que le sapin du Jura, et puis on est juste à côté d'Oyonnax, donc la Plastic Valley, donc pour nous faire des moules pour le polyester, parce que donc tout ce qui est décor est en polyester. Donc à part le chapiteau, la bâche, bon forcément on est obligé de la faire venir, la bâche n'est pas fabriquée sur place, mais autrement tous les sujets, les sculpteurs, tout ça, tout est fabriqué dans la région.
Il y a même un Made in Jura qui se développe, c'est ça?
Voilà, donc chez nous, le Conseil Général, il y a de nombreuses années, a lancé le label. Oui, ça marche pour pas mal de... On a pas mal de produits qui sont labellisés Made in Jura.
Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine Compotin? Le Jura, à l'heure de la mondialisation, c'est sympa comme défi, en tout cas.
Alors moi, j'aime beaucoup le Jura. C'est une très belle région. Il y a très bons vins. J'ai simplement un problème. Il y a tellement bons vins qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on doit les boire.
Alors, on va en parler tout à l'heure, justement. Alors, sur les carousels que vous créez, vous en exploitez également 5, dont un à Neuilly-sur-Seine.
Voilà. Donc,
ça gagne des sous, ça, ou pas?
Bon, écoutez, ça gagne des sous. Hein. On va dire, ça fait nourrir la famille.
Oui, ça va. Allez, sur les 5
surtout
villes.
Surtout si la famille est nombreuse.
Et sur où les 5 villes?
Ben alors, on est à Dijon, on est à Besançon, on est à Évian et Lons-le-Saunier. Et le plus gros de mon activité depuis de nombreuses années, c'est l'événementiel.
Oui, c'est ça. Le cœur de métier, c'est l'événementiel. Donc, vous louez, c'est ça, des carousels à l'occasion d'événementiels d'entreprise, par exemple?
Voilà. Et puis, donc, beaucoup de mariages. On fait beaucoup de mariages, d'anniversaires. Ça nous a arrivé aussi même de faire des anniversaires des enfants qui ont 5, 10 ans. Parce que, heureusement pour nous, il y a des gens de plus en plus riches et puis qui se font de plus en plus plaisir.
Combien ça coûte pour louer un carousel pour un week-end? Tiens, David Cobold, il en veut un dans le Gers, dans sa maison de campagne. Combien ça coûte?
Un carrousel pour une journée, ça tourne autour entre 4 et 5 000 euros.
Ah, quand même, oui. Mais à ce prix-là, vous avez tout, les chevaux, le personnel et tout. Là.
Je peux acheter une moto d'occasion et je tourne tout seul pour ce prix-là.
Et alors, les périodes fortes, c'est quoi? C'est décembre, je suppose, les périodes de Noël, quoi.
Voilà, Noël, parce que beaucoup de villes et beaucoup de comités d'entreprise, et puis même dans le privé, tout le monde veut un carrousel. Ça rapproche la féerie de Noël avec le sapin. Donc, pour nous, le plus gros de boulot, c'est Noël. Ouais.
Et au niveau des. Allez-y, Antoine.
Non, à Paris, on parle toujours du carrousel du Louvre. Il y a un carrousel qui vous avez installé, que vous voudriez mettre ou pas?
Non, ça n'a aucun rapport avec
pourquoi
vous.
Pourquoi pas? Pourquoi pourrait très bien l'installer en milieu, quoi.
C'est vrai qu'à la base, le nom carrousel, c'est un manège avec des chevaux qui tournent, hein, quand les gens dans l'équitation. Donc le nom carrousel est par de là, et après, je pense qu'il a été associé au manège de chevaux de bois, quoi.
Et il reste combien de fabricants de carrousels en Europe ou en France, en tout cas?
Alors, on s'est mis à en fabriquer il y a 20-25 ans, parce qu'il y a eu une forte demande, vu que les gens sont revenus nostalgiques, et puis chaque ville a voulu un carrousel dans sa
place. À l'achat, combien ça coûte? On parle d'argent, mais fait business, on parle de sous.
À l'achat, on va dire, ça, c'est large. Un carrousel de base, il peut partir de 100 000 à 400 000 euros.
D'accord. Et ça dure combien de temps, d'ailleurs? Parce que les chevaux, ils se fatiguent à la fin, non?
Alors, on va dire, ça a duré de vie indéfinissable, parce que c'est l'entretien.
Ouais. Vous mettez de l'essence dans les chevaux et ça repart.
Alors,
hein.
Francisque Bailly-Cochet, je sais que vous écoutez chaque week-end Invino BFM, BFM Business 96.4 à Paris. On parle du vin. Tout à l'heure, Antoine Cohen-Potin effleurait le sujet. Les vins du Jura, vous adorez.
Ah oui, bien sûr. Mais on est
ils ne sont pas très connus. Hein.
Non, ils ne sont pas très connus, mais c'est vrai qu'il faut, on va dire, au départ, on disait qu'il y avait que les jurassiens qui pouvaient le boire, parce que le vin, le cépage chavagnien, c'est un cépage pour nous, on appelle l'or blanc aussi, parce qu'on a la neige et on a le vin blanc chez nous dans le Jura. Mais le cépage chavagnien avec lequel on fait le vin jaune, 6 ans et 3 mois de maturité.
Il n'y a pas que le vin jaune dans le Jura, c'est...
Non, on a un cépage trousseau également, Poulsard, qui est un rouge un peu rosé, hein, le cépage Poulsard. Et on a le cépage chardonnay aussi, et on a très peu de pinot, il y a encore un petit peu de pinot aussi.
Alors Antoine Cohen-Potin, puis Philippe Forbach.
Mais là, moi, je voudrais poser la question aux deux spécialistes, quand est-ce qu'on doit déguster
alors,
le vin jaune?
Philippe, justement, tiens, Philippe Forbach, qu'est-ce qu'il en pense, Philippe?
D'abord, pour compléter la réponse sur le type de vin qu'on produit, effectivement, on fait des rosés avec une couleur particulière, on appelle ça des corails d'ailleurs des fois, des blancs secs, des blancs particuliers comme les vins jaunes.
Oxydés.
Des vins avec du sucre résiduel, comme le vin de paille, qui est une grande spécialité. On fait aussi du crémant, donc du vin effervescent.
Plus en plus, c'est 25% de l'appellation.
C'est 25%, pas négligeable du tout. Mmh. On fait des rouges également, au-delà des rosés avec les mêmes cépages, et notamment le pinot noir qui donne des résultats, ma foi, assez intéressants. Donc il y a vraiment toute une diversité de vins. Celui qui pose le plus de problèmes, entre guillemets, c'est le fameux vin jaune, qui est une typicité locale de vin occitan.
À quel moment et avec qui boire ?
C'est un vin qu'il faut savoir attendre. Et presque un peu comme les carrousels, quoi. C'est un peu indéfinissable le moment où il faut le boire. Parce qu'on peut le boire à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 6 ans et 3 mois.
Ouais, d'oxydation maîtrisée dans
ce fût. Il est meilleur quand il vieillit ou il
évolue finalement relativement peu. Il évolue, hein. Mais beaucoup moins qu'un vin classique.
Sabrina, est-ce que vous appréciez les vins du Jura? Vous connaissez Sabrina, les vins du Jura?
Oui, je connais. Alors j'avoue.
C'est compliqué, Philippe Abra le souligne. Ouais. Quand les boire?
Moi, j'en ai bu pour des fêtes, sur une soupe VGE, parce qu'elle est faite à base de vin jaune, donc du Jura, de vin de paille. J'avoue que c'est pas
VGE, c'est pas, VGE, c'est pas, c'est pas le.
C'est vin de paille. C'est du vin de paille. VGE, c'est Valérie Giscard d'Estaing. Je suis pas une grande fanatique, mais parce que je suis pas une grande connaisseuse de cette région.
Il faut aussi mettre les fromages du Jura, Francis, qui sont beaux fromages aussi. Hein.
Ouais, ils sont exceptionnels. Alors, c'est vrai qu'avec le vin jaune, ça va très bien le Comté, le Morbier, le Mont-d'Or. C'est vrai que vous prenez un petit carré
que
de Comté.
Que du light, c'est quand même merveilleux.
Voilà, que du light, que des fromages.
Que du plaisir.
De vache. Et puis, on a aussi le bleu, on l'appelait dans le temps le bleu de Saint-Moncel, maintenant qui est devenu le bleu de Gex. Hein, c'est le bleu du Haut-Jura. On a un bleu extraordinaire. Et donc, on peut faire aussi des fondus avec des assemblages Comté, Morbier, bleu. Hein, on peut tout mélanger tout ça.
Comment fait, vous faites pour rester maigre là, avec tout ça? Parce qu'il y a,
je fais 95 kilos quand même.
David Cobol, vous aimez les fromages du Jura également?
Moi, j'adore les fromages du Jura. Moi, j'ai un grand faible pour le Comté et les fromages du Jura. Plutôt les pâtes fermes. C'est vraiment le style de fromage que j'aime parce que, et je trouve que ça va très très bien avec le vin jaune.
Et pour
justement
terminer, côté bulle, alors, bulle champenoise, Francisque, vous restez dans la famille si je puis dire. Hein.
Alors oui, c'est vrai que j'ai découvert ça il y a quelques années. Donc, il y a une appellation champagne qui s'appelle Alain Bailly, donc à Cerzy au-dessus de Reims, avec le maître au nord de Reims, et qui fait un champagne extraordinaire. C'est une vieille famille qui, pareil, qui vient de 5 générations. Et on a un super champagne et c'est devenu un peu mon préféré au sens être chauvin, quoi, parce que les jurateurs sont un peu chauvin quand même.
Merci Francisque. Bah, écoutez, vous avez un site internet, une adresse email pour aussi reprendre contact avec vous?
Bien sûr, alors 3fois.carousel-land.com. Voilà.
Et ça marche même dans le Jura, quoi.
Voilà, exactement.
Pas de problème,
ça passe partout.
Bon vent pour Carousel et Dino BFM marque une première pause et puis ensuite retour chez Nicolas, nous sommes à Paris, place de la Madeleine, pour parler de l'Afrique du Sud et du Bordelais.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour chez Nicolas à Paris pour cette émission délocalisée. Nous retrouvons maintenant Sabrina Schmitt, directrice générale d'Optelia, qui nous parle non pas de financement, mais de l'Afrique du Sud en tant qu'amatrice de vin passionnée. Ouais. C'est un beau pays, l'Afrique du Sud. Vous l'appréciez, hein?
C'est un pays magnifique. Donc, j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui. C'est une grande première pour moi. Donc, j'ai essayé d'être à la hauteur, mais on m'en tenait pas rigueur. L'Afrique du Sud. Pourquoi? D'abord parce que j'en rentre. Donc, je viens de passer quelques jours très agréables
d'où
là-bas.
Tout votre temps allait. Il faisait beau.
Exactement.
Hein.
Il faisait un temps magnifique et j'ai allié l'agréable à l'agréable en décidant de déguster exclusivement du vin sud-africain. Donc, déjà, c'était le premier point. Puis le deuxième parce que je trouve que personnellement, on n'en parle pas assez. Il y a plein de belles choses qui se font en Afrique du Sud et j'ai eu envie de vous en parler et de vous faire connaître peut-être un peu mieux ce pays. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais essayer de vous situer l'Afrique du Sud sur l'échiquier de la viticulture mondiale. D'accord? On parle souvent de vin du Nouveau Monde et de vins de l'Ancien Monde. On met souvent ces deux termes en opposition. On nous dit que les vins de l'Ancien Monde, c'est des vins de savoir-faire, de culture, de terroir, d'expérience. Et on nous parle des vins du Nouveau Monde comme des vins axés sur la technologie, sur l'innovation, sur les nouvelles méthodes. Moi, j'ai
c'est
envie
qu'il y ait l'opposition, hein, dans l'esprit de tout un chacun.
Ouais, il y a une opposition. Il y a même parfois un côté péjoratif du côté Nouveau Monde. Et j'avais envie un petit peu de remettre...
Et c'est aussi la pensée simple. C'est des idées reçues. C'est la pensée simple qui ne tient absolument pas compte de la vérité.
Exactement. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de remettre un petit peu les choses au clair. Enfin, en tout cas, mon clair à moi. J'espère que ce sera le même pour tout le monde. En vous parlant de ça, parce que pour moi, l'Afrique du Sud, c'est un peu un pays, comme on dirait en anglais, in between. C'est ni un pays du Nouveau Monde, ni un pays de l'Ancien Monde. C'est-à-dire que il y a un vrai savoir-faire en Afrique du Sud. Il faut savoir qu'ils font du vin depuis le XVIIe siècle. C'est pas quelque chose qui est arrivé chez eux par hasard il y a 20 ans. Ils ont commencé avec les colons hollandais, puis les huguenots, qui étaient des Français qui sont partis immigrer en Afrique du Sud au XVIIe. Ils ont fait un vin qui était un vin mythique qui date du XVIIIe, qui est le vin de Constance ou le vin de Constantia, qui était un vin qui était dégusté sur toutes les tables des grands palais, des grands châteaux européens qui étaient dégustés aux Amériques. Et on le sait pas. Donc on a l'impression que on fait du vin en Afrique du Sud depuis 10 ans, depuis 15 ans. C'est pas vrai. Il y a eu un très très gros tournant dans cette agriculture, dans cette culture-là à la fin de l'apartheid, évidemment, parce que il y a eu des années un petit peu sombres dans ce pays-là. Et c'est vrai que depuis 94, c'est un pays qui a fait des progrès qui sont énormes. Voilà, c'est des progrès que, je pense, en Europe, on aurait peut-être mis 50 ans à en être là où ils en sont, eux, en 20 ans. Donc voilà, pour vous les situer un petit peu, c'est ce que j'avais envie de vous dire, pour vous rappeler que Nouveau Monde et Ancien Monde, c'est pas tout simplement des gens qui se sont lancés hier et des gens qui en font depuis très longtemps. Il y a un vrai terroir, il y a un vrai savoir-faire, mais il y a aussi beaucoup d'innovation.
On parle beaucoup de blanc aujourd'hui, c'est ça ?
Je vais vous parler exclusivement de blanc, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Donc j'ai décidé de vous parler que de blanc. Il faut savoir que le blanc représente à peu près 55-54% de cépages plantés en Afrique du Sud. C'est le 9e pays viticole au monde et il ne fait que 102 000 hectares. Sur ces 102 000 hectares, on a à peu près 55% de cépages blancs. En comparaison, la France, si je ne dis pas de bêtises, on doit être à 836 000 hectares.
Je rappelle que votre métier, Sabrina, c'est le financement. C'est pas parler du vin, ça. Vous en parlez très bien.
Merci.
Continuons.
On va essayer. Ah oui,
pour l'instant, on en parlait bien. Pour l'instant.
Voilà. Donc voilà, pour remettre en parallèle, on est sur un pays qui fait deux fois la France et qui a en surface plantée un huitième de ce qu'on peut avoir nous. Et tout ça réparti sur 18 districts, ils appellent ça eux des districts viticoles, c'est le pendant de la Bourgogne, du Beaujolais, de Bordeaux. Les régions les plus connues sont Stellenbosch, French Hook, Walker Bay avec Hermanus, mais bon, il y en a beaucoup d'autres. Donc, je vais vous parler un petit peu des cépages, parce que ça m'a sauté un petit peu aux yeux quand je me suis intéressée de plus près à ce pays. En France, en cépages blancs, on doit avoir, je sais pas, une centaine de cépages, si je dis des pas de bêtises.
Il y a combien de cépages, David Cobol?
Il y a 250 en tout en France, à peu près.
C'est merveilleux. Si on pose une question à David Cobol, Philippe Forbois, ils ont toujours la réponse. Ça, c'est merveilleux.
Oui, même si elle est fausse. Hein.
L'important, c'est qu'on ait une réponse.
C'est une estimation.
C'est une estimation. Parce que sur le plan commercial, il n'y a guère que 20 qui sont utilisés à grande échelle.
Voilà. Sur l'Afrique du Sud, il faut savoir que en termes de cépages, on en a un petit peu moins d'une petite douzaine en blanc qui sont vraiment utilisés, en sachant que le plus utilisé, c'est le chenin, qui doit représenter à peu près 20% de la production. On a le colombard, qui lui est plutôt utilisé pour tout ce qui est brandy, donc je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Le chardonnay, le sauvignon blanc qu'on connaît très bien. Le muscadet d'Alexandrie, ils appellent ça le hanput là-bas. Et le muscat blanc à petits grains, le muscadel chez nous, le sémillon, le viognier et le riesling. Ce sont les principaux cépages blancs qu'on va trouver en Afrique du Sud. Et globalement, moi je vais vous parler des petites dégustations que j'ai eu l'occasion de faire.
Alors allons-y. Les bonnes et les mauvaises. Est-ce qu'il y a eu des déceptions déjà, Sabrina ?
Alors déjà, par principe, je suis partie 8 jours, je me suis dit chaque soir j'essaye un vin. Donc j'ai pris une bouteille tous les soirs et contrairement à ce que je fais d'habitude, je me suis pas documentée, j'ai dit je prendrai au gré des rencontres et j'ai pris au gré des rencontres.
Donc j'ai dégusté 8 vins.
Voilà, 7 vins. 7 vins, sur ces 7 vins, j'ai eu une déception.
Ah, c'est pas mal.
Une déception.
C'est un bon score.
C'est un très bon score.
Ça fait quand même 6 nuits agréables, c'est bien.
Exactement. La déception, elle n'était pas parce que le vin n'était pas bon, mais c'est que c'était un vin qui n'avait pas d'intérêt. Donc, globalement.
À quel prix vos bouteilles en général ?
C'était ridicule. Hein. On est sur du 210 RAN, ce qui va faire, je ne sais pas, 15 euros.
Et ça c'est
sur
au
table,
restaurant.
Sur table au restaurant, oui. On est d'accord. Ouais. Donc, c'est vraiment rapport qualité-prix extraordinaire.
Ouais. Voilà. Et avec une politique en plus à table qui fait que les gens peuvent apporter leurs
bouteilles.
Donc, du coup, comme ils en consomment moins au restaurant, les prix au restaurant sont relativement faibles pour rester attractifs.
Ouais, c'est ça, donner envie. Quoi, ouais.
Pour donner envie. Et,
alors, allons-y, premier jour, première nuit, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, je ne vais pas vous les raconter toutes parce que sinon, on va faire bien plus de 6 minutes.
Les soirées déjà, on
voilà,
pour la nuit.
Je vais me consacrer à 2-3 vins. J'ai commencé, comme je le fais toujours, par quelque chose de simple. Donc j'ai pris un chardonnay, 100% chardonnay. Je me suis dit, voilà, généralement quand on goûte des vins du monde, enfin en tout cas, dans mon imaginaire, et plus je voyage et plus je me rends compte que mon imaginaire est parfois bien faux, je m'attends à retrouver une petite copie ou une pâle copie de nos chardonnays. Je m'attends à trouver un petit goût de beurre, un petit goût lacté. Je m'attends à trouver tout ça. Et donc je me suis dit, allez, chardonnay... 15 euros à la carte, ni connu, enfin, je savais rien de ce vin. Et ben globalement, quelle surprise, jolie surprise. Je suis tombée sur un vin, c'est un Kleinsalz, c'est fait dans la région de Stellenbosch. Le millésime, c'était 2014, donc on peut même pas dire que j'ai été chercher un grand vin d'une grande année. J'ai pas retrouvé du tout le goût lacté. J'ai pas du tout retrouvé la petite note de beurre prononcée. Par contre, au nez, j'ai retrouvé cette petite note de pain grillé qui est très très agréable et que j'aime vraiment beaucoup moi quand je bois du chardonnay. Et j'ai trouvé un vin qui m'a surprise par sa fraîcheur, son fruit, son acidité. Tout ça, c'était maîtrisé. Ça avait vraiment 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 rien à voir avec une imitation d'un chardonnay.
Deuxième et dernier coup de cœur, Sabrina.
Dernier coup de cœur. Alors là, j'ai été un petit peu plus téméraire. J'ai été goûter un blend de blanc. Donc un blend, c'est un mélange, c'est un assemblage exactement. Donc j'ai goûté un Haute Cabrière, donc c'est un blend de chardonnay et de pinot noir. Ça vient de la région de French Hook. C'est un mariage que je trouve très ambitieux parce qu'on a été marié à un cépage blanc et un cépage rouge. Donc, ce qu'on peut faire, nous, par exemple, en Champagne, mais qu'on n'a pas forcément pour habitude de faire sur du vin de table. On est sur 60% de Chardonnay et 40% de Pinot. Ben, c'était surprenant. C'était surprenant, c'était complexe, c'était frais, c'était... équilibré, c'était une très très jolie surprise.
Merci beaucoup Sabrina Schmitt, on aura le plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de InVino BFM pour découvrir vos nuitées hein, et puis vos coups de cœur plutôt côté vin. Mon cher Philippe Forbach, on parle de Bordelais par exemple aujourd'hui, direction le Blayais. Blayais, c'est combien d'hectares au total d'ailleurs?
6 500 hectares aujourd'hui.
6 500 hectares, d'accord. À peu près. On est loin de Bordeaux?
On n'est pas très loin de Bordeaux, on est à 45 km au nord de Bordeaux. C'est l'appellation considérée comme la plus septentrionale du département de la Gironde, donc du Bordelais. Et Blaye, c'est très connu parce que c'est une situation géographique particulière, politique aussi, stratégique. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a une citadelle construite par Vauban et qui vaut d'ailleurs à cette citadelle d'être classée au monument historique du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Philippe, pourquoi on appelle ces constructions des merdes à Vauban?
Je sais pas, il faut peut-être l'expliquer en anglais.
Non, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un terme que j'ai entendu souvent. Oui, c'est une merde à Vauban.
Oui, c'est quelqu'un qui ne met pas.
En fait, c'est les fortifications.
C'est parce que c'était compliqué d'y aller, donc on disait peut-être c'est vraiment la merde pour pouvoir aller là-bas. Tellement c'est compliqué. Mais c'était le but en même temps, mon cher David.
Oui, c'était pour repousser les Anglais. Hein.
Exactement. C'est ce que j'allais vous dire. C'était quand même, c'est quand même été utile. Et cette appellation. Est connu, Blaye est connu pour sa citadelle et pour ses vins, bien entendu. Alors, il y a trois appellations. Je vais essayer de faire ça simplement, mais néanmoins. Il y a l'appellation Blaye-Côte de Bordeaux, qui existe depuis 2009 et qui remplace les premières côtes de Blaye, qui produit du blanc et du rouge. S'il n'y a que Blaye sur l'étiquette, c'est automatiquement du rouge. Et s'il y a Côte de Blaye, c'est automatiquement du blanc sec. L'appellation dont je vous parle aujourd'hui, c'est l'appellation donc Blaye-Côte de Bordeaux, qui produit effectivement les deux couleurs. Essentiellement d'ailleurs du rouge, alors que l'image que j'ai personnellement du secteur est plutôt des blancs. Mais on produit en majorité des rouges élaborés à partir de Merlot, qui est ce fameux cépage qui a été quand même surplanté ces dernières années pour donner des vins un peu plus souples d'accès, donne des vins très fruités, assez en rondeur. 70% d'ailleurs du vignoble de cette appellation est planté en Merlot. Le reste, c'est essentiellement du Cabernet Sauvignon, à peu près 20%. Et c'est une région dans laquelle on a conservé le Malbec, qui est un cépage qui fait les beaux jours de Cahors depuis longtemps et de l'Argentine depuis plus récemment, mais qui est encore utilisé dans des proportions non négligeables, puisque 10% du vignoble rouge de l'appellation Blaye-Côte de Bordeaux est effectivement sur ce cépage. Les blancs sont élaborés à partir de Sauvignon blanc. Pour l'essentiel, c'est le cépage tendance à la mode. On en parlait il y a un instant, en Afrique du Sud, c'est également un cépage qui plaît, parce qu'il est identifiable. Ses qualités variétales, son pouvoir de séduction, son côté très fruité, ses arômes d'agrumes, etc., ou de fruits exotiques, en fait un vin très agréable, agrémenté de 10% à peu près, dans l'encépagement, de muscadelle et de sémillon. On a des vins qui sont plantés plutôt sur des terroirs de type... Il y a plusieurs types de terroirs. Il y a 20 terroirs sur différents revendiqués, en tout cas identifiés. Ce sont les terroirs de base de calcaire dominante qui sont les plus intéressants pour les rouges, alors qu'on a plutôt des terroirs de type argileux, voire silicieux, qui sont pas inintéressants, notamment pour
combien ça coûte une bonne bouteille de Blaye?
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rapport qualité-prix qui est assez incroyable. La plupart des vins d'entrée de gamme sont autour de 5-6 euros. Et on a quelques cuvées spéciales, tant en blanc qu'en rouge. Mais d'ailleurs, les cuvées spéciales blanches, par exemple, je trouve pas beaucoup d'intérêt. Boisées, souvent un petit peu trop concentrées. C'est pas l'envie que j'ai, moi, quand je goûte un vin de cette région-là. Par contre, dans les rouges, on peut avoir des vins qui ont un peu plus de structure. Ce qui est formidable, c'est qu'on trouve aujourd'hui encore, notamment sur les rouges, des millésimes disponibles à la vente, à la propriété, comme 2009 ou 2010, qui sont juste de très très bons millésimes.
Ouais,
et qui, à moins de 10 euros, parce qu'il y a beaucoup de rouges à moins de 10 euros, sont juste des rapports qualité-prix qui sont assez incroyables.
Quelques vignerons, peut-être, Philippe, pour compléter
le domaine du
panel.
Et notamment pour son blanc, le château Crusté-Sabourin, le château des Tourtes, le château Dubrot, Aubertinerie, qui fait partie un peu des stars, ou encore le château Pénin, sont des vins tout à fait remarquables. On peut les boire en plus assez rapidement. Un blanc sur des huîtres, un rouge sur une grillade de bœuf ou d'agneau, c'est juste un plaisir avec un rapport qualité-prix-plaisir incroyable.
Merci beaucoup Philippe Forbach, marquant une pause pour les infos et puis ensuite retour ici chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour parler de l'aventure Wine Explorers et également des bons vins pour accompagner les poissons.
InVino BFM, Alain Marty sur BFM Business.
Retour chez Nicolas, nous sommes Place de la Madeleine à Paris pour retrouver Antoine Cohen-Potin, président du cercle Gaston Phébus. On vous en avait parlé du gibier il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on parle de poisson, n'est-ce pas, Antoine?
Et oui, je suis d'abord heureux de vous retrouver aujourd'hui. On avait parlé de l'ouverture de la chasse au mois de septembre, et il y a quelques semaines, c'était l'ouverture de la pêche. Donc aujourd'hui, nous allons parler.
Tous à vos cannes.
Exactement. Nous allons parler des vins qui vont avec le poisson, les coquillages et les crustacés. Alors, j'ai été voir des grands spécialistes pour ça. J'ai été rencontrer Philippe Judot, qui est le directeur du restaurant Desserrier, qui appartient au chef étoilé Michel Rostand, qui nous conseille sur le poisson le Sauvignon, notamment sur des poissons de mer grillés de l'Atlantique à chair ferme, comme la Lotte ou le Saint-Pierre, qu'il cuit sans sauce. Alors, le Sauvignon, vous le savez tous, c'est un vin blanc, monocépage, apprécié pour sa minéralité, avec pas trop de complexité. Alors, sur les poissons cuits nature...
Ça dépend les vins. Hein.
Alors, ça dépend les vins, on va en parler. Sur les poissons cuits nature, il nous recommande le Chardonnay, qui est un cépage entier, qui a une belle complexité et peu d'acidité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Ça dépend les vins aussi, hein. Chablis est très acide. Ben oui,
c'est
lié au lieu, pas que le cépage.
Non, mais on écoute les recommandations de ce monsieur.
Voilà, ce monsieur qui sont excellents d'ailleurs, parce qu'il nous suggère aussi des Côtes de Provence, des vins de l'AOC Bellay, près de Nice, des Bourgognes, des Côtes de Beaune, des Meursault, des Côtes Chalonnaises et des Murcurées. Alors Philippe Judot a un coup de cœur à Rully, en Côte Chalonnaise, pour les domaines Vincent Dureuil Gential en 2011 et 2012, m'a-t-il bien précisé.
Ça dépend, David, hein.
Ça dépend. Et pour le Mercure Blanc de Laurent Juillot. Alors, il recommande aussi des vins du Languedoc et de la vallée du Rhône qui ont bénéficié d'un fort ensoleillement, d'un sol calcaire magnifique. En fait, des vins qui vont parfaitement sur le poisson, à chair ferme et dense. Oui, parfois, il n'y a pas d'ensoleillement.
Non, il n'y a pas que du calcaire.
Mais
ceux du calcaire, c'est celui qui recommande.
Et alors, à Saint-Joseph, qu'est-ce qui se passe?
Alors, à Saint-Joseph, il recommande les vins de Courbis et de Pierre et Jérôme Coursaudon.
Et pour les poissons cuits à la plancha.
Alors là, j'ai été voir quelqu'un d'autre. J'ai été voir Marie Roger, qui est une ancienne sommelière de chez Robuchon.
Vous connaissez Philippe? Marie Roger?
On s'est croisés.
Qui œuvre aujourd'hui à 26 ans au restaurant parisien Hélène. Alors elle suggère pour ses poissons...
Qui a une étoile depuis peu de temps.
Depuis une excellente table de poissons. Très bonne table.
Vous avez reçu à Bordine Vino.
Effectivement.
Quelques temps.
Alors elle suggère pour ces poissons dont les chairs vont être saisies et caramélisées des vins qui ont du gras et de la minéralité comme le Puligny Montrachet de Frédéric Cossard.
Ça dépend David ou pas? Ça dépend.
Ça dépend.
Dans ce cas on peut le dire, encore que je ne sais pas ce que veut dire minéralité, mais ça c'est un autre problème.
Mais ça se traduit comment en anglais?
N'écoutez pas en anglais.
Acidité.
Je continue.
David redevient anglais, continuez.
Je continue. Alors elle nous propose également de déguster des poissons qui sont les pulpitos. Je ne sais pas ce que vous connaissez le pulpitos? La Rolls de la poulpe ou le Danty. Vous connaissez le Danty?
Excellent centre du Stade français, Julien Danty.
Danty. Alors, le Danty, c'est aussi une variété de dorade de Méditerranée. Elle propose aussi du mérou, des langoustines d'Écosse et sur un simple poisson grillé au four, comme par exemple un turbotin cuisiné avec de la sauge, de la pancetta. Vous connaissez la pancetta?
Oui, bien sûr.
La pancetta. Elle nous conseille un vin corse, le Patrimonio Blanc 2011.
Parfait.
D'un domaine particulier ou juste
en général?
En général. En général, et il faut aller voir pour qu'elle vous propose des choses différentes. Vous avez une idée?
Oui, le domaine Leccia, par exemple, Gentile, et il y a beaucoup de très bons vignerons, Antoine Arena, enfin, etc.
YL.
Exactement. Et alors, on passe directement à la bouillabaisse. Tiens, la bouillabaisse, qu'est-ce qui se passe?
Alors, la bouillabaisse, elle s'accommode parfaitement avec des vins du littoral méditerranéen, de la vallée du Rhône, mais des vins qui vont très bien aussi avec le rouget, avec la rascasse.
Et quand on est un peu japonais, là, le poisson cru, les sashimi, dites-nous tout, Antoine Cohen-Potin.
Alors, sur des carpettes chaudes dorade royale au citron caviar, sur des noix de Saint-Jacques ou sur des langues d'oursin, Marie Roger recommande des vins épurés sur la finesse, comme la cuvée paradis du domaine Vacheron à Sancerre, ou des vins plutôt minéraux qu'aromatiques.
Et les poissons d'eau douce?
Alors je dirais qu'avec la truite, il n'y a pas besoin de vins puissants. Le Sylvaner d'Alsace ou de Moselle convient à merveille. D'ailleurs, Philippe Judot, lui, aime bien les vins d'Alsace de Frédéric et Philippe Blanc. Et sur des autres poissons d'eau douce comme le Brochet en Connelle, il nous propose d'essayer des vins de Savoie comme le Chilien Bergeron et le Sandre. Et sur le Sandre, le Mentoux Rouge.
Bon, il faut noter tout ça. On termine en avance en tout cas sur les crustacés.
Je dirais que le Sauvignon est parfait pour les fruits de mer et se déguste plutôt jeune.
C'est vrai. Donc c'est tout ce que vous avez à dire là-dessus.
Non, je
les crevettes grises,
ça c'est vite fait ça.
Quand on est du côté de Stand, par exemple, les petites crevettes grises.
Alors moi, les crevettes grises, je vais plutôt les pêcher du côté de Cabourg, au Pousseux, sur la Manche aussi, un peu plus bas. Elles sont pleines d'iode. Vous pouvez les essayer avec un cheverny.
Et ça, c'est une très bonne chose. En plus, il y a un excellent rapport qualité-prix. Alors, est-ce qu'on peut imaginer du poisson avec du vin rouge ? Parce que c'est pas évident, ça.
Bien sûr qu'on peut prendre du poisson avec du vin rouge. Je dirais que même par goût, certains amateurs ne veulent pas trop d'acidité, pas d'astringence, ni de vin tannique. Donc, ils vont vers le rouge.
Et les rosés, c'est possible aussi ?
Les rosés, c'est un bon compromis.
Oui, mais alors, il faut préciser quel type de rouge. Donc, ouais, il faut
pas trop tannique.
Parce que tannin, c'est non, mais ça rouge. Dépend vraiment, là. Disons un gamay, peut tannique ou certains pinot noir. Alors, mais pas un cabernet ni un syrah.
Les vins du Nouveau Monde, on parlait tout à l'heure du Nouveau Monde avec qui a choqué un peu cette expression, Sabrina Schmitt. Par exemple, je sais pas, en Nouvelle-Zélande.
Alors en Nouvelle-Zélande, Philippe Jeudeau nous propose lui un vin qui s'appelle le Cloudy Bay de la région de Marlborough. C'est un Sauvignon blanc d'Essence and Wine. Je dirais que c'est un vin de référence international qui est reconnu pour ses arômes de fruits frais et sa finesse, qui s'accommode parfaitement avec des poissons grillés comme le bar, le saumon, la dorade, avec des carpaccio de thon et même avec des oursins.
Et à quelle température déguster les vins avec le poisson ? Pas la température du poisson, hein, c'est du vin.
Alors moi je dirais sous le contrôle de nos deux experts, qu'en blanc comme en rouge, l'idéal est plutôt de carafer les vins, parce qu'ils s'expriment tout de suite. Il ne faut pas servir les vins blancs trop frais, plutôt à 8-10 degrés, et les vins rouges à 11-12 degrés, mais là encore, ça dépend.
Et si on aime les bulles de champagne, ça fonctionne aussi avec du poisson ?
Plutôt des ultra bruts. Les blancs de blanc sont excellents, notamment les Ruinards, Paul Roger Henriot, et Philippe Judeau, lui encore, suggère des grandes cuvées comme la cuvée Louise Brut Pommerie en 99, le champagne Dom Pérignon en blanc 2004, et Laurent Perrier Grand Siècle. Et en champagne rosé, le Bilcar Salmon et le Lallier. Mais surtout, avant de choisir votre vin, n'oubliez pas que dans tous les cas, c'est d'abord un choix extrêmement personnel. C'est comme celui du poisson que vous irez pêcher. Donc, avant de boire le vin, il faut d'abord pêcher le poisson.
Merci beaucoup, Antoine Cohen-Potin, le président de ce cercle. Gaston Phébus, du BFM, accueille maintenant Jean-Baptiste Ancelot. Bonjour, Jean-Baptiste.
Bonjour à tous.
Alors, racontez-nous, vous êtes un globe-trotteur, là. Vous avez un projet 92 pays viticoles. Vous en êtes à 26. Expliquez-nous.
Alors aujourd'hui, Wine Explorer, c'est le premier recensement mondial de tous les pays producteurs de vin. On est parti d'un constat très simple, la loi de Pareto s'applique également au monde du vin. Et aujourd'hui, on a à peu près 20 pays entre l'Europe et le Nouveau Monde. On a cité tout à l'heure par exemple l'Afrique du Sud, qui représente un peu plus de 90% des publications, que ce soit en termes d'ouvrages, que ce soit en termes d'articles journalistiques. Donc après des recherches, on s'est dit que plus de 80% des pays étaient encore méconnus, manquaient d'informations, et ce voyage de 3 ans et demi autour du monde à la rencontre des vignerons...
3 ans et demi quoi.
3 ans et demi.
Avant, vous aviez un métier, non ? Vous n'étiez pas que navigateur dans le vin ?
Oui, j'étais directeur export pour un domaine dans les Côtes-du-Rhône. Un métier dans lequel on voyage beaucoup, d'ailleurs, puisqu'on a des clients un petit peu partout sur la planète.
Et alors, comment on finance ça ? Sabrina, je vois les yeux qui pétillent. Là, ça donne envie de vous suivre, là, de venir avec vous. Là. Comment on trouve un petit peu de sous, quand même ?
L'avantage, c'est que le projet a une vraie finalité, que ce soit par le biais de livres, que ce soit par le biais de la création d'une librairie mondiale du vin, par de la documentation, par un documentaire, par exemple. Du coup, ça attire énormément de grosses entreprises, que ce soit du monde du vin ou d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut citer, par exemple, DB Schenker, qui est le numéro 2 dans la logistique mondiale, qui transporte pour nous, gracieusement, tous nos échantillons jusqu'à Bordeaux, où on stocke et on crée cette librairie du vin. Et on peut également faire des redégustations. La première aura lieu, par exemple, le 16 juin prochain à Bordeaux, pendant Vinexpo. On réunira une quinzaine d'experts mondiaux du vin, une partie à l'aveugle, une partie en étiquette ouverte.
Je peux venir, moi ?
Alors, c'est acté, David fera partie du jury.
Attention, pas trop d'anglais quand même.
Panel.
Et alors, donc, on peut vous aider ? Vous avez un site internet peut-être, une adresse si on
www.wine-explorers.net. Et il y a également un blog qui est accessible via le site sur lequel on publie toutes nos découvertes.
Voilà, aujourd'hui vous êtes à 26 pays. Racontez-nous votre plus grande déception et votre plus grande joie.
Alors, les déceptions, et c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de la subjectivité dans les vins, tout dépend effectivement du contexte. L'exemple en date, on revient de Bali, on a troqué les tongs
pour...
Et oui, il y a deux domaines viticoles à Bali. Et finalement, on est dans une viticulture tropicale. On fait très peu de vin, beaucoup de blanc, assez aromatique parce qu'on est proche du muscat, donc c'est assez sympa. Le vin en soi n'est pas forcément extraordinaire, mais si vous le mettez dans le contexte avec une température très
génial,
chaude
quoi.
Et des plats épicés, c'est absolument magnifique.
Ouais, il manque juste un truc au panorama, mais enfin, c'est pas mal déjà.
Exactement. Donc des déceptions, peu, mais des coups de cœur, je peux vous en citer. Par exemple, sur les grands rouges du Mexique, dans la Barra California, où on a dégusté des choses assez extraordinaires.
Quoi, Pedro Domecq & Co, là ?
Alors, Casa de Piedra, Lecheto, qui est le plus gros, qui fait 1 million de caisses, c'est assez intéressant, mais on a des petites niches à côté de 30 000 bouteilles par an, qui sont assez sympas. Je peux vous citer un viticulteur assez chouette. Il s'appelle Hugo Da Costa, qui est un peu le gourou de la vallée et qui sera à vos côtés, David, dans le jury.
Est-ce que vous avez vu les baleines dans le golfe du Mexique en Basse-Californie, là, qui dégustent?
Non, mais par contre, on a joué à la pétanque avec l'équipe nationale du Mexique et tous les vignerons de la région. Donc,
bon, c'est sympa, super, voilà. Son projet. Auréagie, tiens, Sabrina, vous y allez avec lui, là?
Ah, moi, je pars.
Vous quittez tout, là?
Quand? Quand?
Non, mais c'est juste génial, quoi. Et vous avez envie d'y aller un jour?
Ah, complètement.
C'est,
ouais,
c'est votre,
ouais,
rêve, quoi. David Cobol, c'est formidable, c'est une belle idée.
Non, mais ce projet, je me souviens, on l'avait reçu il y a quelques, quoi, 2 ans ici.
Exactement. Recommandé par Jean
Wex. Avant le départ, donc maintenant, il est parti, il est au milieu de la chose. Je trouve ça formidable qu'il réalise ça. Et bon vent pour la suite. À propos de baleines, j'en ai vu à côté de Walker Bay en Afrique du Sud.
À Hermanus, il y en a
pas. Ouais.
Philippe Forbach, hein, non, c'est une bouquette bière sous du monde, un tour du monde, 92 pays, ça vous parle?
Ça me parle et c'est un rêve de tout amateur de vin, finalement. Pouvoir se prendre quelques temps sabbatique.
Et vous dormez où,
pour soi, etc.
Alors, avant de vous répondre sur la question de où on dort, qui est très intéressante,
c'est où?
Juste une digression sur ce qu'avait dit Philippe il y a 2 ans et qui était tout à fait juste et que j'aime beaucoup relayer. Vous aviez dit: ce genre de projet, on le fait souvent en fin de carrière parce qu'on a le temps. Et que vous le fassiez, vous, aujourd'hui,
vous
c'est très
âge,
audacieux. 29 ans.
29
ans,
c'est génial. Quoi, c'est... Voilà. Ouais. Mais c'est vrai, l'idée de documenter, ça, vu avant de mourir, on fait tout le monde des vidéos.
Oui, c'est une sorte d'aboutissement, etc. C'est un voyage initiatique juste extraordinaire.
Ouais. Antoine Gouin-Potin, ça vous plairait?
Moi, ça me plairait. Je ne vais pas attendre d'être à la retraite. Mais alors, c'est quoi votre prochaine destination?
Alors là, on entame une boucle sur l'Europe d'une quarantaine de pays qu'on va scinder en 3 parties. Et on commence, par exemple, par la Belgique. On va aller sur le Danemark, la Suède. Exactement.
Oui,
au pays de la bière, il y a 3 petites régions de vin et ça va être assez intéressant
et
de faire un match.
Et les vins anglais, un jour, vous y allez là?
Oui. Alors, début mai, on commence par l'Angleterre. Il paraît qu'il y a des effervescents assez sympas.
Si l'Angleterre à Belgique, vous êtes malade. Hein, vous avez intérêt à... Non?
Il faut marcher. Hein,
faut y aller.
En fait, on prend beaucoup de transports différents. Et pour répondre à votre question tout à l'heure sur où est-ce que nous dormons,
oui,
par exemple,
à l'hôtel, vous,
c'est un projet qui est très, très sérieux. Donc, on essaye quand même... on est sur du voyage, ça fait rêver, c'est assez intéressant. Mais à côté de ça, il y a de la vraie documentation. Et comme vous le dites, de passer le plus de temps possible avec l'habitant permet d'avoir de l'information sur les cultures, l'histoire et les origines du vin dans chaque pays, puisqu'on a à chaque fois une origine, que ce soit par les colonisations, que ce soit par les conquêtes, ou que ce soit par des... Voilà.
Des
et c'est toujours
le
très
blog, pour terminer, vous nous rappelez le blog?
Alors, c'est www.wine-explorers.net et vous avez tout en français et en anglais.
Merci Jean-Baptiste Anso, c'est formidable ce que vous faites. On marque une dernière pause et puis ensuite, retour ici chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour parler du domaine Carpe Diem et du mariage vin et chocolat.
Invino BFM, Alain Marty sur BFM Business.
Retour chez Nicolas, place de la Madeleine à Paris, pour accueillir un nouvel invité, Albéric Philippon du domaine Carpe Diem. Bonjour Albéric.
Bonjour Alain.
Alors nous suivons votre aventure de néo-vigneron depuis presque 2 ans. Replantez-nous un peu le contexte, hein. Vous aviez un autre métier avant, il est où ce domaine Carpe Diem? Et puis aujourd'hui on parle de la vente du vin.
Alors l'autre métier, effectivement, mon épouse et moi, nous étions expatriés en Asie, cadres supérieurs dans des sociétés internationales. Et à la naissance de notre premier enfant, on a décidé de revenir aux sources, près du terroir, et surtout de se lancer dans un projet qui ait du sens pour nous. Donc après 2 ans de préparation, nous avons trouvé la perle rare, un petit domaine en Provence.
Diem, où ça, en Provence, exactement. Vous êtes où exactement?
Nous sommes dans le centre du Var, dans un petit village plein de caractères qui s'appelle Cotignac.
Alors racontez-nous, donc aujourd'hui le chapitre c'est la vente de vin, parce que produire un bon vin, ça c'est fait, maintenant faut-il le vendre encore?
Exactement, donc c'est vrai que depuis 2 ans on a quand même accompli beaucoup de chemin, et nos années d'Asie en mode expatriation nous paraissent bien loin. Après une deuxième saison, on a maintenant du recul sur la production, que ça soit à la vigne ou à la cave, et surtout, je dirais une grande réserve, puisque encore récemment, je rencontrais un grand vigneron qui me disait qu'après 40 vendanges, il découvrait tous les ans quelque chose de nouveau. Donc, je pense qu'il faudrait rester très humble sur son éventuelle compétence en la matière. La grande particularité, c'est que une fois qu'on a réalisé son vin, il faut ensuite le vendre, et c'est toute une affaire, si on peut dire. On a appris quelque chose d'essentiel, c'est qu'il ne suffit pas de faire du bon vin pour qu'il se vende. Et le corollaire, c'est aussi qu'il y a des gens qui savent très bien vendre du mauvais vin. Donc, entre les deux...
Quelques noms, peut-être,
Albéric. Il y en a qui en vendent du bon aussi. Hein.
Voilà, mais il suffit pas qu'il soit bon pour qu'il se vende tout seul. C'est surtout ça le. Et ce qui est particulièrement prenant, c'est que c'est son bébé en fait. C'est, y a, on a vraiment un rapport d'intimité avec le produit qu'on fait. Il y a une implication et aller au devant de clients, que ce soit des professionnels ou des consommateurs grand public, c'est toujours une épreuve parce qu'on se met à nu et il faut affronter les deux réactions qui sont la première, c'est bon ou c'est pas bon, et la deuxième, ça vaut son prix ou ça vaut pas son prix. Alors on vous dit rarement que c'est pas assez cher, mais on peut éventuellement vous dire que c'est trop cher.
Et est-ce qu'on vous a déjà dit que c'est pas bon?
Écoutez, ça arrive parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde.
Non, mais c'est pas voilà, c'est voilà. Pas.
Donc oui, tout à fait, ça arrive. Heureusement.
On peut dire ça dépend.
on sera la phrase du jour
on
de l'émission.
On peut dire aussi ça me plaît pas, c'est pas parce que c'est pas bon.
Voilà, en fait.
Mais parce que simplement le style. Ah,
prenons les vins
pas,
du Jura, par exemple. Hein, les vins du Jura sont pas mauvais, ça. On peut
c'est
pas
un exemple ou les vins de Suresnes.
Tempérament particulier.
Les vins de Suresnes.
Est-ce qu'on les boit avec du poisson, vos vins? Parce que ça m'intéresse beaucoup.
Oui, ça peut arriver. Alors, particulièrement le blanc Artus, qui est notre nouveau-né, voilà, que David a dans les mains.
Côte de Provence, 2014.
Exactement.
Donc, alors, concernant la vente, on va dire sur le sujet, hein. Donc le caveau, par exemple.
Alors, nous, on a une grande chance. C'est vrai que, historiquement, le domaine Carpédium réalise 80% de ses ventes sur place. Donc, nous sommes ouverts 7 jours sur 7. C'est un investissement personnel, en temps. On a une personne qui est tout à fait dévouée au caveau tout au long de l'année quand nous ne sommes pas nous-mêmes sur place. Et c'est ce qu'on privilégie parce qu'on a un vrai contact direct avec nos clients, qui sont dans ce cas-là surtout des particuliers, et qui découvrent aussi le domaine, nos modes de production. On traverse les vignes pour arriver au caveau. On peut éventuellement leur faire visiter la cave, déguster la barrique. Voilà, on a vraiment un contact très privilégié.
C'est le plus sympa. Les salons aussi grand public, hein.
Alors, salon grand public... là, c'est l'anonymat complet. Là, nous étions le mois dernier au salon des vignerons indépendants.
Combien d'exposants?
600.
Et c'est trop, ça? C'est pas un peu trop?
Alors, ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire que...
Ça serait mieux pour vous s'il y avait un seul exposant, vous.
Oui, alors, c'est le cas sur un autre petit salon qu'on fait sur le bateau du Maxims, deux fois par an, en mars et en novembre, et qui est extrêmement sympathique.
Ouais. Il annonce ce salon?
C'est le salon Saveurs et Vins sur Seine. Vous retrouverez toutes les informations.
Paris.
À Paris, donc au pied de la Tour Eiffel, exactement, dans un cadre tout à fait agréable.
Il fait restaurant en même temps, non?
Oui, en fait, il y a régulièrement des événements sur ce bateau, mais la particularité de celui-ci, c'est qu'au premier étage, vous avez aussi des producteurs du terroir, notamment un ostréiculteur qui ouvre ses huîtres à la douzaine, producteur de foie gras pour David. On a même un chocolatier
récoltant.
Pourquoi
moi, les foie gras? Je ne sais pas, j'ai une tête de foie gras, moi.
Ah, allez, les salons professionnels, c'est aussi un bon moyen?
Là, oui, c'est très différent, parce que les salons professionnels, il faut les préparer, on fait rarement
des professionnels, c'est quoi? Des cavistes? Des restaurateurs.
Cavis, sommelier. Il m'est arrivé d'ailleurs de croiser David et Philippe très récemment sur un salon au pavillon Gabriel. Et là, vous avez des professionnels qui ne font pas à proprement parler de découverte parce qu'ils sont extrêmement sollicités. Donc il faut prendre rendez-vous avec eux, réussir à les faire venir de façon anticipée sur le stand. On se déplace pas au petit bonheur comme sur un salon grand public.
Les cavistes et les restaurateurs sont des bons clients. On dit parfois qu'ils achètent mais ils ne paient pas.
Alors oui, mais bon, on peut organiser quand même un certain nombre de précautions dans les modes de règlement. Bon, il faut éviter de livrer pendant 6 mois si on a une grosse ardoise.
Ouais, c'est aussi la bonne gestion de l'entreprise.
C'est
aussi une entreprise.
C'est clair.
Et enfin, pour terminer, l'exportation, vous produisez combien de bouteilles au total, Albéric?
Alors, nous produisons 50 000 bouteilles, donc on est encore un petit
bébé.
Domaine. Voilà, un bébé. C'est vrai qu'on est un petit calibre pour l'export. L'avantage, c'est que ce sont des marchés qui se construisent durablement. Donc, c'est souvent long et fastidieux. C'est beaucoup d'agréments, notamment les États-Unis. Des contraintes particulières, il faut refaire complètement l'étiquetage. Mais une fois qu'on est implanté, on se rend compte que c'est à la fois une façon de diversifier ces réseaux de distribution, donc de les sécuriser, mais aussi d'être présent sur le long terme.
Merci beaucoup Albéric Philippon, David Cobol, vous qui avez cofondé l'Académie du vin de Paris. Nous parlons d'un accord, d'un mariage, des fiançailles, parfois un peu compliqué, hein, entre le vin et puis le chocolat.
Un challenge. Il y a deux manières d'aborder la question. La manière très cynique, c'est de dire que rien ne marche avec le chocolat. La manière paresseuse, ça serait de dire le contraire, que tout va avec le chocolat. Vous faites la vérité et ça dépend. C'est entre les deux. Alors, cette idée de travailler sur la question, parce que j'ai commencé, je n'ai pas terminé un travail, donc je vais vous livrer des travaux en cours. M'est arrivé il y a peu de semaines, nous avons reçu une jeune femme chocolatière, Victoire Finaz, qui fait de très jolis chocolats.
Sympa.
Et on a travaillé en tandem sur ce projet, c'est-à-dire qu'elle a apporté des chocolats de types différents, c'est-à-dire lait, pas lait, plus ou moins intense en cacao jusqu'à 100%, et puis des nappages, y compris des graines de cacao nappées. Et moi, j'ai apporté différents types de vins. Alors, on ne peut pas multiplier ça à l'infini, parce que sinon, ça prendra 3 jours, et puis on est très malade à la suite. Mais, donc, les types de vins que j'ai amenés pour ce premier atelier, c'était un champagne, juste pour voir, champagne brut, classique. Un vin blanc sec, mais pas trop vif. C'était un chardonnay de Californie, mais pas trop boisé, pas trop riche. Un vin rouge sudiste tannique. C'était un vin du Languedoc, un beau vin du Languedoc, mais avec des tanins, du fruit, de la saute, du soleil, tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et oui, un truc surprise que j'ai amené comme un joker, un Redziner grec, pour voir. Et c'était vraiment la chose la plus étonnante dans la série. Et puis, pour vous faire plaisir à vous, Alain Martin, mais à nous aussi, parce que je dois vous dire, c'est ce qui a marché le mieux, deux vins doux naturels du Roussillon. Un Rivesaltes plutôt léger en sucre, du domaine Vaquet, magnifique vin, et puis un Moré beaucoup plus intense du domaine de la Préceptrie. Donc une chose qui est à la fois tannique et sucrée et très 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 rouge. Alors tout ça, ça a donné les types de chocolat que nous avons essayé étaient, bon, un chocolat blanc pour voir, mais un chocolat blanc, on sait qu'il n'y a pas de chocolat dedans, il n'y a que du beurre et du sucre, donc c'était pas très très intéressant. Ensuite, on a monté un 45% lacté, 55% lacté, 75% noir et 100% noir, plus des fourrés tarte au citron, fourrés au yuzu et des graines de cacao nappées.
Vous amusez bien dans la vie, vous, hein?
On s'est vraiment amusé et puis on va poursuivre parce qu'on va creuser ce sujet avec Victoire. C'est vraiment un travail passionnant.
Et alors, qu'est-ce qui fonctionne?
Alors, ce qui fonctionne. Le vin blanc ne fonctionnait avec rien du tout.
Avec rien du tout.
Rien du tout. Le champagne non plus.
Même le chocolat blanc.
Le champagne à la rigueur avec un chocolat fourré tarte au citron parce que la partie citronnée ressortait avec le champagne et ça tuait pas complètement le champagne et ça tuait pas non plus la tarte au citron. Mais tout le reste c'était mort-né. La chose la plus surprenante c'était de la Redziner. Alors j'ai pris un très bon Redziner, c'est le domaine Gaïa, c'est-à-dire la déesse de la terre. Qui a pris le challenge de faire un bon Redziner, parce que les mauvais Redziner, moi j'ai connu ça dans mes journées estudiantines à Londres.
Quelques noms de mauvais vignerons
C'était servi dans les restaurants grecs à Londres, il n'y avait même pas de nom, mais c'est tout ce qu'on pouvait se payer, et on prenait ça. Mais c'était
vin de la communauté européenne avec la Grèce.
Mais là, c'est un très très bon Redziner, et c'était extraordinaire avec la fourrée tarte au citron, mais aussi plus surprenant avec le noir 75%. C'est-à-dire qu'il y avait un dialogue entre la concentration en tanin du chocolat et le côté résiné du vin. Vraiment, ça marchait super bon. Saint-Jean-de-Bébion, le rouge tannique, était aussi très bon avec les degrés de chocolat concentré. Les lactés, ça marchait pas. Si, à partir de 55%, et puis 75% et surtout 100%, c'était le meilleur accord. Et les fèves de cacao, c'était génial. Donc, vin rouge plutôt rond et tannique, ça marche très bien avec le chocolat noir. Et puis, pour finir en beauté, les vins doux naturels. Alors là, le Rivesaltes Grenat du domaine Vaquet, ça marchait correctement avec tout, mais super bien avec les 75% et avec la fève enrobée, et plutôt bien avec les autres. Plus c'était concentré, mieux ça marchait. Quand on introduit un peu de fruits dans le fourrage, c'était écrasé par la puissance du vin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va creuser avec des vins blancs sucrés une prochaine fois, parce que je n'avais pas amené, c'est le seul type de vin que je n'ai pas apporté. Et puis le muté sucré est très tannique, le Moré Grenat, ça marchait aussi bien, et plus c'était concentré en chocolat, plus ça marchait bien. Donc on peut trouver des choses avec le chocolat. Le grand problème, comme disait une collègue anglaise, Joanna Simon, dans son livre Wine and Food, excellent bouquin d'ailleurs si vous lisez l'anglais, la mort par le chocolat est une manière courante de tuer les vins.
C'est joli ça. Ça va, Schmitt, vous appréciez les chocolats et puis le vin, l'accord n'est pas facile. Hein. Il faut vraiment écouter une Dino BFM. Hein.
Bon, je préfère le vin au chocolat, mais j'aime bien essayer de marier les deux. Et moi, en général, je pars sur des vins de rouge tannique. Donc, soit Syrah, soit Châteauneuf, soit. Enfin, je sais que le tannique et le chocolat noir marchent bien.
Et donc, tannique et sudiste, parce que vous avez aussi.
Et sudiste.
Dans votre restaurant, Philippe Aurac, vous servez également, vous proposez également à vos clients.
Au bistrot du Saumur, on sert des rouges du sud de la France, des grenaches. Notamment, Châteauneuf est un très bon exemple, mais Rasto, Gigondas, par exemple, ça va aussi très bien dans leur densité. Voire des bandoles rouges, alors on n'est plus sur du Grenache, on est plutôt sur des Mourvèdres, mais pour les mêmes raisons, on a du soleil, on a des tanins finalement, et on a une certaine densité de chocolat qui s'équilibre extrêmement bien, notamment avec des Mourvèdres. On n'a pas parlé trop d'âge dans l'explication de David, mais l'intégration de l'âge est un élément très important. Au début, sur ces vins-là, on a du fruité, avec le temps, on a des notes torréfiées qui vont aussi extrêmement bien avec
certains types de chocolat.
Et un côté pratique, David, une bonne bouteille de vin de naturel, on peut la conserver longtemps, longtemps, longtemps.
Et oui, cela dit, quand elle est ouverte, mais il vaut mieux la garder au frais parce que vous allez perdre du fruit. Vous allez conserver l'alcool, parce que l'alcool va le conserver, mais le fruité va disparaître petit à petit.
Antoine Cohen-Potin, pour terminer.
Alors moi, j'adore le chocolat et je le déguste surtout avec du cognac, mais aussi avec du calvados.
Avec modération.
Ça va être le sujet d'un futur atelier.
Alors merci, je serai là.
Merci David Cobold, fin de ce 542e numéro d'Invino BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve comme d'habitude délocalisé et en public chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, samedi à 10h et dimanche à 16h. D'ici là, bonne suite de week-end sur BFM Business et surtout respectez la plus grande des modérations.